Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Nam pa fan, kam pa setua, dukut reste. Ce libellé du connu de Jiddu Krishnamurti est un essai de spiritualité et de philosophie pratique centré sur une question radicale, comment un être humain peut-il être libre? Non en théorie, mais dans sa vie quotidienne. L'ouvrage se présente comme une invitation à une révolution intérieure plutôt que à une réforme progressive. Krishnamurti y examine la manière dont la pensée, la mémoire et les croyances héritées façonnent une identité construite, puis entretiennent la peur, la violence et la souffrance. Refusant le rôle de gourou et toute forme de notoriété spirituelle, il encourage le lecteur à observer directement ses propres mécanismes mentaux. Sans méthode figée ni système à adopter. Le livre insiste sur la lucidité, à l'attention et la compréhension de soi comme voie vers une liberté authentique, dans un style direct. Souvent interrogatif, Krishnamurti cherche moins à convaincre que provoquer une perception neuve, capable de rompre avec le connu et d'ouvrir un espace de silence intérieur. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le conditionnement comme prison intérieure. Un axe central du livre est l'idée que l'être humain vit largement conditionné par la culture, l'éducation, la religion, la nation, la classe sociale, mais aussi par son histoire personnelle. Ce conditionnement ne se limite pas à des opinions, il structure la façon même de percevoir. Krishnamurti décrit ainsi une forme de captivité, nous réagissons selon des schémas appris et nous appelons cela notre personality ou notre moi. Or, pour lui, cette identité est en grande partie une construction de la pensée, nourrie par la comparaison, la recherche de sécurité psychologique et le besoin de t'appartenir à un groupe. Cette appartenance crée des frontières, donc des oppositions, donc des conflits. Comprendre le conditionnement ne consiste pas à accumuler des explications, mais à le voir à elle œuvre en temps réel dans une réaction d'orgueil, de jalousie, de d'attachement à une croyance ou de peur de ne pas être reconnu. Le livre pousse à constater que la liberté ne peut pas naître d'un esprit qui répète. La première étape est donc une prise de conscience concrète de ce qui, en soi, fonctionne par habitude et par imitation. Deuxièmement, est l'observation de soi sans jugement ni idole. Krishnamurti propose une démarche exigeante, est-ce s'observer soi-même avec une attention qui ne se confond ni avec l'analyse interminable ni avec l'autocondamnation. Selon lui, le jugement introduit immédiatement une division à un observateur qui critique et un moi observa qui se défend. Cette division alimente le conflit intérieur et empêche de voir clairement ce qui est. L'auteur insiste sur une attention simple, sobre. L'esprit regarde ses propres mouvements comme il regarderait en fait une émotion qui monte, une pensée qui s'accroche, une envie de fuir ou une vérité inconfortable. Cette observation ne cherche pas à devenir meilleur, plus spirituel, plus conforme à un idéal. Les idéaux, pour Krishnamurti, sont souvent des prolongements du conditionnement, des images du futur qui font oublier la réalité présente. En revenant à ce qui est, le lecteur est invité à découvrir une qualité de perception dans laquelle comprendre et transformer ne sont pas séparés. Voir clairement une peur ou une contradiction, sans la justifier ni la supprimer par la volonté, produit déjà un changement. L'ouvrage place donc à l'attention au cœur de toute transformation authentique. Troisièmement, peur, plaisir et souffrance, le mécanisme de la pensée. Le livre explore la manière dont la pensée organise une grande partie de notre vie psychologique autour de la peur et du plaisir. Krishnamurti relie la peur à la recherche de sécurité intérieure, sécurité dans une croyance, une relation, une image de soi ou une promesse de salut. Mais cette sécurité est fragile, car elle dépend du temps, de l'avenir et de la continuité du moi. La pensée, en s'appuyant sur la mémoire, anticipe la perte, la douleur ou l'échec et fabrique ainsi l'anxiété, de façon parallèle. Elle poursuit le plaisir en cherchant à répéter des expériences agréables, ce qui produit attachement, dépendance et inévitablement la crainte de ne plus retrouver ce plaisir. L'auteur ne condamne pas la joie, mais questionne la mécanique de la répétition et de la fuite quand l'esprit utilise le plaisir pour éviter le vide ou la souffrance. Il se rend captif. La souffrance, elle, est souvent renforcée par la résistance, la comparaison et le besoin de donner un sens consolateur à ce qui fait mal. Krishnamurti invite à regarder la peur et le désir sans échappatoire, car c'est cette confrontation lucide qui permet une compréhension profonde, au-delà des explications intellectuelles. Quatrièmement, aucune autorité extérieure pour être libre. Un point décisif de se libérer du connu est le rejet de l'autorité comme moyen d'éveil intérieur. Krishnamurti critique la tendance humaine à chercher un guide, une méthode, un système ou une institution qui garantirait la vérité. Pour lui, dès que l'on suit une autorité psychologique, on cesse de voir par soi-même et on retombe dans l'imitation. La dépendance à un maître, à une idéologie ou à une tradition peut donner un sentiment de direction, mais elle entretient la peur de se tromper et la conformité. Cette dépendance nourrit aussi les divisions religion opposées, camp politique, identité collective en concurrence. Elle auteur ne prône pas un scepticisme stérile, il pousse à une responsabilité directe vérifiée en soi, dans l'expérience immédiate, ce qui est vrai. Cette position explique le ton du livre, fait de questions plus que de prescriptions. La liberté ne serait pas un résultat obtenu à la fin d'une discipline, mais une perception qui se produit quand l'esprit cesse de déléguer sa compréhension. En ce sens, l'ouvrage se distingue des manuels de développement personnel orientés vers des recettes, il vise une autonomie radicale de la conscience. En dernier lieu, silence intérieur, attention et transformation immédiate, Krishnamurti associe la liberté à une qualité d'esprit silencieuse et attentive qui n'est pas produite par la contrainte. Le silence dont il parle ne correspond pas seulement à l'absence de bruit, mais à l'apaisement du bavardage mental, des commentaires incessants et des réactions automatiques. Il suggère que lorsque l'attention est complète, la pensée retrouve sa juste place utile pour les tâches pratiques, mais limitée dès qu'il s'agit de comprendre le vivant en soi. Cette attention totale est liée à l'idée que voir est agir. Autrement dit, une compréhension authentique, elle n'est pas séparée en étapes de d'abord comprendre, ensuite appliquer. Quand l'esprit voit clairement une illusion, une contradiction ou un mécanisme de fuite, cette clarté porte en elle un mouvement de changement. Le livre ne promet pas une illumination spectaculaire, il met l'accent sur une transformation qui peut être simple mais profonde. Parce qu'elle se produit au cœur de la vie ordinaire dans les relations, dans les conflits, dans l'écoute, dans la solitude. Cette perspective donne au texte une portée à la fois spirituelle et concrète. La révolution intérieure proposée n'est pas une accumulation d'expériences, mais une disponibilité neuve à chaque instant affranchie du poids du connu. En conclusion, se libérer du connu s'adresse à celles et ceux qui ressentent que les réponses toutes faites, qu'elles soient religieuses, idéologiques ou psychologiques, ne résolvent pas la question de la souffrance et du conflit intérieur. Le lecteur qui cherche une méthode structurée, des étapes précises ou des exercices garantis peut être déstabilisé, car Krishnamurti refuse de transformer la liberté en technique. En revanche, toute personne prête à examiner honnêtement ses conditionnements y trouvera un outil rare, une invitation à voir directement, à observer sans se mentir, et à reconnaître comment la peur, le besoin de sécurité et l'attachement au moi fabriquent une grande part de nos impasses. Le bénéfice est autant intellectuel que pratique, le livre affine la lucidité, encourage une attention plus fine aux réactions quotidiennes, et ouvre un espace pour une responsabilité personnelle qui ne dépend d'aucune autorité, dans le paysage des ouvrages de spiritualité. Il se distingue par son ton non dogmatique et par son exigence, il ne vend pas une promesse, il met le lecteur au travail de la perception. Cette radicalité, alliée à une grande simplicité de questionnement, explique pourquoi ce texte reste une référence pour qui veut comprendre la liberté comme un fait vivant, et non comme une idée réconfortante. Si vous souhaitez soutenir aussi du Krishnamurti, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.